À 18h dans le studio Kalangou, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans ce journal au micro Nafis Adamou Sirfo. À présent, les titres. Une dizaine de scolaires interpellés ce matin à Agadez par la police. Les raisons de cette interpellation avec le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université d'Agadez. Au moins 7 morts, c'est le bilan d'une embuscade tendue à des villageois par des individus armés à Rumfu dans le département de Filengué. Les détails dans ce journal. En partie magazine, qu'est-ce qui explique les fréquentes sorties des scolaires à Niamey? Réponse avec le secrétaire général de l'Union des scolaires nigériens qui fait le point des revendications des scolaires objet de grève perlée depuis le début de l'année académique 2017-2018. Nous rentrons dans ce journal avec cette brève. À la prison de Dekeina à Tillaberi, Mohamed Aminou Nassirou, étudiant en master physique fondamentale à l'université Abdou Momoni de Niamey, et Abdoulaye Hamadou Kone, agent de l'Institut de recherche en développement IRD, ont entamé ce jour 23 avril 2018 une grève de la faim, nous apprend un membre du cadre de concertation de la société civile. Selon cette source, ces deux prévenus protestent pour dénoncer le fait qu'ils ont été inculpés et emprisonnés sans être écoutés au préalable. Ils avaient été arrêtés le 25 mars 2018 à Niamey lors de la manifestation publique interdite contre la loi de finances 2018. Une dizaine de scolaires, dont le secrétaire général de la section collège et lycée et celui de la section de l'Union des étudiants et instituts professionnels et techniques d'Agadez, ont été interpellés ce lundi 23 avril 2018 par la police d'Agadez. Écoutons les explications de Zachary Fanagana Yahya, secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université d'Agadez.
Des camarades en occurrence, SG de la section collège et lycée, SG de la section des écoles professionnelles et techniques, étaient là-bas au niveau des EN dans les soucis d'exercer les mots d'ordre du comité directeur. Subitement, ils étaient entourés par deux voitures de la police. Une troisième voiture est arrivée et puis ils l'ont embarqué. Ils sont actuellement au commissariat. Le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens, en association avec les autres camarades membres des différentes sections SER, on a constitué une petite délégation, premièrement, de rencontrer les DRPN pour nous donner au moins l'autorisation d'aller rencontrer les camarades. Ils nous ont empêchés de voir même les camarades, d'entrer même au niveau du commissariat. Nous, nos inquiétudes n'est rien d'autre qu'à l'heure actuelle là où nous sommes. Personne d'entre nous ne sait la situation dans laquelle les camarades se trouvent.
Des propos recueillis par Moussa Maman. Après l'annonce le 11 avril du retrait du parti MPN Kinshasa de l'Alliance des partis politiques au pouvoir au Niger, le groupe parlementaire Les Patriotes a annoncé l'exclusion des députés de ce parti de leur groupe. Selon le juriste Maina Karté, le règlement intérieur de l'Assemblée prévoit dans ce genre de situation un départ automatique des députés du parti qui s'est retiré de l'Alliance. Il est au micro de Diallo Maria Makenda.
Dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'article 24 nouveau dit que les députés s'organisent par affinité politique. Aucun groupe ne peut, à sa création, comprendre moins de 13 membres de l'Assemblée nationale. Eh bien, le parti Kinshasa, qui est déjà avec deux autres groupes, RSI, et puis je crois Zabalahia, en quittant la MRN, c'est-à-dire la coalition des députés qui soutiennent le chef de l'État, il n'a plus d'affinité politique avec ses amis politiques. C'est-à-dire, sur le plan de la forme, il n'y a même pas de déclaration à dire que Kinshasa automatiquement ne fait plus partie du groupe parlementaire. On dit à l'alinéa 2 de cet article 24-là, en cas de désaccord politique sur le positionnement majorité-opposition au sein d'un groupe parlementaire en cours de législature, les députés du groupe concerné peuvent recomposer un autre groupe conformément à l'alinéa ci-dessus ou adhérer à un groupe de leur choix.
La ville de Tchintabaraden, région de Tawa, se prépare à accueillir pour la deuxième année consécutive les festivités entrant dans le cadre de la Journée nationale de la Concorde célébrée le 24 avril de chaque année, une journée qui marque la signature de l'accord de paix de Ouagadougou signé le 9 octobre 1994 entre la rébellion armée qui sévissait au nord du Niger et le pouvoir central. À propos de cette fête à Tchintabaraden, le préfet du département nous explique les particularité de l'événement de cette année. Ambakawel Litini est au téléphone avec Alassane Kouzi Mohamed.
Le gouvernement a décidé non seulement d'organiser la fête de la Concorde pour la deuxième fois consécutivement à Tchinta, mais de maintenir cette fête définitivement à Tchinta à partir de cette année.
Est-ce qu'on peut savoir pourquoi?
D'abord, le premier coup de feu tiré par les mouvements armés dits rebelles ont commencé en 1985 à Tchinta. Quand vous prenez l'histoire de l'implantation du sabre de la paix, ça s'est produit à Tchinta en 1997. Le sabre de la paix qui matérialise la confirmation de l'adhésion aux accords de paix signés en 1995 par les différents forces. L'autre particularité, c'est que cette année, l'État a voulu faire de cet événement un cadre d'échange entre l'État et les communautés de la Zawa à travers des panels qui seront organisés pour qu'ensemble, on puisse trouver des idées qui vont nous permettre de sauvegarder et de maintenir la paix dans la Zawa et dans le Niger.
7 personnes tuées, dont un chef de village dans le Kourfey la semaine dernière dans une embuscade. À l'origine, 2 individus sur une moto ont attaqué et tué un commerçant du village de Rumfou, situé à 37 km à l'ouest de Filengué. Les assassins ont été pourchassés jusqu'à Gumbiafana, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Filengué, où ils ont piégé leurs poursuivants. El Hadj Halirou Rahidou Marafa, représentant du chef de canton du Kourfey, nous relate les faits.
Même le chef de village de Koukagana, qui s'appelle Haruna Kada, était parmi ceux qui ont poursuivi les assaillants. Il était également parmi les 7 personnes tuées. Les assaillants ont fui à partir de la zone de Fana. Nous avons sollicité les forces de défense et de sécurité pour engager la poursuite. Mais hélas, ils ne sont pas arrivés. Alors le jeudi, nous avons pris le risque puisque nous ne pouvons pas laisser les cadavres de nos concitoyens se pourrir dans la brousse. Un des survivants m'a bien confirmé que lui, il s'est camouflé dans un buisson. Il a attendu la pleine nuit quand les assaillants sont partis avant de sortir du buisson. Il m'a confirmé que ce sont des perles. Même la population du village nous a également confirmé que c'est bel et bien des perles. Hier, en compagnie du préfet et d'autres personnalités venues de Niamey, nous avons procédé à leur enterrement. Ce qui nous a étonnés, le préfet, en dehors de son garde du corps, n'a aucune escorte avec lui. C'est comme cela que nous avons pris le risque pour aller enterrer les corps des victimes. Nous lançons un appel à l'État de prendre les dispositions nécessaires pour que la paix règne dans notre zone.
Pour cause d'insécurité, plusieurs écoles et centres de santé sont fermés à Inates, une commune rurale du département d'Ayarou, région de Tillabéri. Ngungu Mohamed Dantani, adjoint au téléphone ce matin Issalek Al-Hamadou, adjoint au maire de la commune rurale, pour savoir comment est vécue cette fermeture d'écoles et des services de santé. On l'écoute.
Les écoles sont toujours fermées. Il y a celle de Kalachi, Tintedangawen, Trezawen et Ngoul de Talfatat qui est menacée aussi. Même celles qui sont fonctionnelles, il y a des problèmes avec l'état d'urgence. L'accès est difficile. Les formations sanitaires, il y a une attesse qui est fermée pendant plus d'un an, mais maintenant ça commence à fonctionner. Il y a la case de santé de Talfata qui est fermée. Ça fait presque un an. Il y a la case de santé de Tidrgalen aussi qui est fermée, toujours à cause de l'insécurité. Il y a le CSI de Tangouchman qui fonctionne, mais avec des difficultés parce que déjà on l'a attaqué 2 fois. Avant même cette situation d'insécurité, je peux vous citer plus de 40 localités qui, pour avoir accès à un CSI, il faut parcourir à une quarantaine de kilomètres. Il y a l'insécurité qui est là. Vraiment, rien ne marche.
Dans toutes les régions du Niger, les abonnés de la Société nigérienne d'électricité Nigelec se plaignent de l'augmentation du coût élevé de l'électricité sur la facture du mois de mars 2018. À cette augmentation était déjà greffée la taxe d'habitation prévue dans la loi de finances 2018. Le point dans ce reportage de Rahilat Soumana.
Beaucoup d'abonnés de la Nigelec ont constaté une hausse du montant de leur facture du mois de mars.
des notes salées qui vont parfois du simple au double, comme le souligne ce chef d'entreprise à Tillabéri.
Nous ne savons plus où mettre la tête. Avant, pour la location du compteur, je payais 7 500 francs. Maintenant, je paye 12 500 francs. Dans le passé, je payais seulement ma consommation. Ils ont augmenté 6 000 francs hors consommation, qu'ils disent pour l'État. Ma plus grosse consommation avait été facturée à environ 200 000 francs CFA. Maintenant, elle fait plus de 400 000 francs.
Une situation que bon nombre d'abonnés ne comprennent pas. Selon le directeur de la Nigérienne d'électricité du secteur de Gaya, Moussa Jibrilou, cette montée serait due à certaines taxes appliquées dont il nous donne les détails.
Il y a la taxe d'habitation qui est rentrée. Pour les 6 kilos, c'est 2000. Pour les 12 kilos, c'est 3000. Et pour les compteurs 18 kilos, c'est 4000. Pour les petits compteurs, les gens payent 200 seulement, les 3 kilos. Maintenant, si vous avez un compteur 18 kilos, l'avance de consommation de 4500 est passée à 7650. Tout ça, il faut en tenir compte. Quand vous dépassez le seuil de 150 kWh, il y a le TVA qui s'applique. C'est ça qui augmente effectivement la consommation.
Face à cette nouvelle tarification, les abonnés de la Nigelec déplorent le manque d'information de la part de cette société. Cependant, elle demande une révision des taxes sur la consommation de l'électricité.
Du sport en brève, la 17e journée de championnat national de Ligue 1 a débuté ce week-end sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, le Sahel SC de Niamey a battu l'espoir de Zender sur son propre terrain 3-0. À Niamey, l'US Gendarmerie nationale a aussi battu l'AS Police par le score d'un 1-0. À Arlita, match nul entre l'Urana d'Arlita et le Jongorjo FC de Maradi. Toujours à Arlita, victoire de la Kokana d'Arlita contre l'AS Nigelec à 1-0. Le 24 avril 2018 à Dosso, l'entente a accueilli le Rancine de Niamey. Ottawa, la jeunesse sportive de Ottawa affronte l'AS Fan et ici à Niamey, l'Olympique de Niamey rencontre l'AS Douane. Le 25, l'AS GN sera face à l'AS Sony Dep.
Studio Kalangu.
Suivez les programmes du Studio Kalangu à Dosso sur la radio FRA
92 MHz,
à Birningaouré sur la radio Marhaba
95.1 MHz,
à Dogandouchi sur la radio Dalol
92.8 MHz,
à Maradi sur la radio Garkwa
107 MHz,
à Mayayi sur la radio Anouri
99 MHz,
à Dakoro sur la radio Mouye Dakoro
99 MHz.
Studio Kalangu.
À présent, la partie magazine de cette édition. Depuis le début de l'année scolaire 2017 à 2018, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériennes a lancé plusieurs mots d'ordre de grève suspendant toutes les activités académiques pour exiger du gouvernement la satisfaction de sa plateforme revendicative. Al-Ghabid Mahamoud Ider, secrétaire général du CDUSN, revient sur les différents points de leurs revendications. Il est au micro de Tarnan Foudey Ahmed.
L'USN a formulé depuis un temps des revendications à l'endroit du gouvernement du Niger, réparties en 7 points, dont le premier est la question de la réhabilitation des étudiants Eskeli à l'Université Abdoumoun de Niamey et des 12 élèves Eskeli au CEJU Couronnord de Niamey. Le deuxième point concerne la question du retrait pur et simple de l'arrêté directeur qui restreint les libertés syndicales et même les droits syndicaux. Le troisième point concerne notre rejet du protocole d'accord qui a signé entre le ministre des Enseignements supérieurs et les enseignants-chercheurs, un protocole du cœur dans lequel les intérêts des étudiants n'ont pas été pris en compte. Le quatrième point concerne notre souci de voir la révision des textes portant statut de l'Université Abdoumouni. Nous avons demandé la nomination d'un président du conseil de l'université et la révision d'un arrêté qui date de 2007 portant pouvoir disciplinaire à l'égard des étudiants. Le cinquième point, c'est la question du protocole d'accord ISN-gouvernement où des engagements ont été pris depuis 21 avril 2017. La question des paiements à terme échus des bourses, aides sociales, allocation, pécule des élèves, la question des chantiers en cours et la question des bus. Nous avons un sixième point qui concerne un forum sur l'enseignement supérieur qui fera l'autopsie du monde de l'enseignement supérieur. Le septième et dernier point concerne la question du rehaussement des frais du BTS d'État. Et ces frais étaient 15 000 francs pour les candidats officiels et les candidats libres. Mais cette année, on a amené ça à 21 000 pour les candidats officiels et 40 000 pour les candidats libres, 80 000 pour les étrangers. Parallèlement où on augmente les frais de dépôt de dossier, on supprime deux centres, celui d'Ottawa et des Zander.
Est-ce que parmi tous ces points cités, il y a des points que le gouvernement a satisfaits?
Le gouvernement n'a satisfait aucun de ces points.
Même pour ce qui concerne les allocations, les bourses et aides sociales?
Par rapport aux bourses et allocations et même l'aide sociale, le gouvernement a pris des engagements. engagement qu'il n'est pas en train d'honorer. Aujourd'hui, on est en train de payer de manière très lente des bourses en compte-goutte la bourse du premier trimestre. Et même ça, jusque-là, les nouveaux bacheliers n'ont touché aucune bourse. Et nous sommes en avril, au moment où on devrait payer la deuxième bourse. C'est maintenant qu'on est en train de faire un paiement interrompu de la bourse du premier trimestre. Ça, les nouveaux bacheliers et ça, les étudiants qui font le master 2. La question de l'aide sociale, c'est maintenant la réception des dossiers. Les allocations, c'est les 8 régions qui comptent les pays. On a engagé 4 régions, on a laissé 4 régions pour des problèmes de finances, comme ils le disent. Pour nous, ça n'a aucun sens. On ne peut pas, en tout cas, sur les 8 régions, engager 4 et laisser 4 pour un problème d'argent. Ça ne peut pas se justifier. Et malgré la trêve que l'ISN a observée pour donner chance à toutes ces négociations et mettre à l'épreuve la bonne foi du gouvernement, c'est toujours les mêmes problèmes qui sont constatés.
Al-Ghabit Ider, secrétaire général de l'Union des scolaires nigériens que vous venez d'écouter, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.